Dites-tout. Ah, Jésus, certains pourraient dire c'est inutile parce qu'il sait déjà. Et pourtant, il veut qu'on lui dise, qu'on élève notre voix vers lui. Et pour le faire, il faut le connaître. Il faut, surtout si on est enfant de Dieu, connaître Jésus. Et nous sommes à la découverte de Jésus dans l'évangile de Jean. Je vous invite à trouver l'évangile de Jean dans votre Bible, dans votre livre, votre appareil si vous l'avez. L'évangile de Jean, chapitre 5. L'évangile de Jean, chapitre 5. Je veux poser la question, j'ai un peu peur, mais qui a lu déjà ce matin la feuille de la bonne semence pour aujourd'hui? Alors, si vous l'avez lu, vous allez vous dire, ah tiens, il y a un verset dans ce passage qui était. Et depuis plusieurs semaines, le dimanche, c'est sur Jésus. Et aujourd'hui, je vous gâche peut-être la surprise, mais voilà, c'est sur sa soumission. Et ils ont pris un des versets dans ce passage. Pour expliquer cela, et on va y revenir donc dans l'évangile de Jean chapitre 5. Donc si vous allez lire le feuillet un peu plus tard aujourd'hui, ne vous étonnez pas de revoir un peu la même chose là-dessus, et ne croyez pas que je me sois inspiré de la feuille de la bonne semence, j'avais déjà préparé en avance. Jean chapitre 5, à partir de verset 17. Vous allez dire, mais Robert, on a vu ce verset la semaine dernière. Oui, et pourtant, on est oublieux, vous savez. Et nous allons refaire, vous allez dire, non, pas encore, mais si, refaire la lecture à partir de verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 46. Alors, suivez avec moi, méditez sur ces versets alors que je les lis, parce que, encore une fois, nous sommes à la découverte de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous montre à travers ce passage? Alors, Jean chapitre 5, à partir de verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse et me croiriez, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, prions, demandons l'aide de Dieu ce matin. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, tu nous vois tels que nous sommes et nous avons besoin de ton aide pour comprendre cette parole. Nous te remettons ces instants que tu agis dans notre cœur, que Jésus puisse devenir de plus grand à nos yeux, que tu nous instruises, que tu nous donnes de la connaissance, de la compréhension et ainsi que tu nous permettes de mettre en pratique ce que nous apprenons. Nous te faisons confiance pour cela parce que tu le feras. En ton nom. Amen. Alors, Jésus ici, vous le savez, mais je vais le rappeler, venait de faire un miracle, venait de rendre un homme paralytique, sain de corps. Et cet homme est allé porter quelque chose un jour de sabbat, quelque chose qui ne devait pas se faire. Ah, grand crime, quelque chose pour lequel il aurait pu être lapidé si on appliquait la loi. Et les chefs religieux manquaient de compassion cruellement envers cet homme. Et ils cherchaient aussi à se saisir de Jésus et ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus avait fait ça un jour de sabbat. Plus tard, ils vont dire, il y a 6 jours pour se faire guérir, pour recevoir de l'aide et tout. Venez ces jours-là, mais le jour de sabbat, quand même, ces choses ne doivent pas se faire. Et pourtant, Jésus, lui, maître du sabbat, n'est-ce pas, avait compassion de cet homme et l'a guéri. Et ensuite, comme nous avons vu la semaine dernière, et on a surtout mis l'accent là-dessus, Jésus, dans ce passage, se fait l'égal de Dieu. Et vous l'avez vu, les chefs religieux n'ont pas manqué cela. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont très bien compris que Jésus se faisait l'égal de Dieu. Et pour cela, ils voulaient le mettre à mort. Et ils avaient raison dans un sens, parce que si Jésus n'était pas égal à Dieu, se faire l'égal de Dieu, c'est un blasphème. Si moi je disais que j'étais l'égal de Dieu, vous pourriez prendre vos recueils et me les jeter. Hein? Parce que je ne suis pas l'égal de Dieu. Vous ne l'êtes pas non plus. Hein? Mais Jésus est. Et il pouvait dire, le Père agit et moi j'agis. Et dans le verset 18, ces chefs religieux, ils ont très bien compris. Ils cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et tout ce que Jésus avait besoin de faire pour éviter des soucis, pour se défaire de cette situation, c'était de dire, ah non, vous vous trompez. Non, votre analyse, elle n'est pas juste parce que je ne suis pas égal à Dieu. Vous croyez que je dis cela, mais non, finalement, je ne suis pas l'égal de Dieu. Mais vous comprenez bien, et nous le savons, il ne l'a pas fait parce qu'il est égal à Dieu. Sa déité, il est Dieu. Et c'est une grande source d'encouragement pour nous, parce que nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons un grand Dieu. Et ce grand Dieu, n'est pas quelque part sur son trône, éloigné dans le ciel, à l'autre bout de l'univers, ne se souciant pas de ce qui se passe sur la terre. Non, ce grand Dieu, Jésus, il s'intéresse de près à ce qui se passe dans notre vie. Et de savoir que nous avons à notre disposition le Dieu de l'univers, le seul vrai, comme dit le livre d'Ésaïe, tous les dieux des nations sont des idoles. Ce sont de faux dieux. Nous avons le vrai Dieu. Et ce n'est pas prétentieux. Les gens pourraient dire, oh, mais vous êtes prétentieux, vous dites que vous avez la vérité, que vous avez le seul vrai Dieu et tout. Oui, nous l'avons. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est Dieu. Dieu dit, je suis Dieu, à part moi, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce Dieu, vous le savez, qui s'est incarné, qui a pris la forme humaine, qui est venu sur la terre et qui est resté Dieu. Pendant qu'il était sur la terre, Jésus n'était pas moins que Dieu. Hein. Il était totalement Dieu. Et donc, Jésus, en tant que Dieu, doit nous encourager. Parce que ce même Jésus, il est avec nous tous les jours. En 2019, Jésus est avec nous. Ce n'est pas juste un personnage historique du passé, avec aucune incidence sur notre vie aujourd'hui. Non, non, il est avec nous. Mais parce qu'il est Dieu, il a toute autorité. L'autorité que Jésus manifeste dans ces versets, c'est quand même frappant. Il va se mettre sur un pied d'égalité et même se mettre au-dessus de Moïse. Et ceci ne nous choque pas peut-être comme ça devrait, puisque pour nous, la loi de Moïse, tout ce que Moïse a écrit, tout ce qu'il a fait, ne fait pas vraiment partie de notre histoire. Mais pour les Juifs de l'époque, Moïse était un des personnages les plus grands, les plus remarquables de leur histoire. Parce que c'est lui qui a vu Dieu face à face. C'est lui qui a reçu les tables de la loi. Les tablettes, Apple n'a rien inventé. Hein. Dieu, il était tellement en avance par rapport à ça. Il a reçu les tables de la loi, écrites du doigt de Dieu. Je suis fasciné à chaque fois que je vois ce verset. La loi écrite du doigt de Dieu. Comment ça devait être? Et Moïse, qui voyait Dieu, le visage qui resplendissait au point où il devait mettre un voile devant son visage pour que les gens le regardent. Alors, comment être plus grand que Moïse? Quand même. Et ici, Jésus, encore une fois, parce qu'il est Dieu, eh bien, il se met même au-dessus de Moïse. Mais en même temps, il ne rejette pas Moïse. Et c'est quelque chose qui est formidable et que les chefs religieux vraiment n'ont pas compris, puisque eux, ils croyaient que Jésus venait pour tout abolir, se débarrasser de tout ce qui était ancien et promettre quelque chose de nouveau. Mais finalement, qu'est-ce que Jésus a fait? Il le dit lui-même, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et cet accomplissement, ce n'était pas simplement pour son époque, mais c'est pour notre époque aujourd'hui. Jésus, par la suite, au chapitre 13, va dire, je ne vous donne pas un commandement nouveau. C'est un commandement ancien, c'est le plus grand, le premier des commandements. Aimez Dieu, aimez son prochain comme soi-même. Et Jésus, avec cette autorité, peut dire à nous, aujourd'hui, 21e siècle, l'année 2019, aimez-vous les uns les autres. Et parce que c'est Jésus qui le dit, qu'il avait dit il y a 2000 ans à ses disciples et à ceux qui l'entendaient, et qui le dit encore aujourd'hui, croyez-vous que nous avons le droit de refuser, de faire le tri en disant à telle ou telle personne, j'aime, parce que cette personne me fait du bien. Parce que cette personne m'écoute, parce que voilà, on passe du temps ensemble, mais cette autre personne, bah, je n'aime pas. Ou je reste indifférent, ou je lui veux même peut-être du mal. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire cela? parce que Jésus a l'autorité de dire « Aimez-vous les uns les autres ». Et lorsque nous arriverons au chapitre 13, où Jésus dit ses paroles à ceux-ci, à cet amour que nous avons les uns pour les autres, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui lui ressemblent. C'est à cet amour-là. Et c'est tout aussi valable en l'année 2019. Et là où ça doit commencer, c'est entre nous, entre vous et moi, entre frères et sœurs en Christ. Et cela passe tout d'abord par une relation avec Jésus. Jésus, il va dire dans ces versets, « Si vous croyez en moi, si vous m'acceptez, ben vous avez la vie. » Il va dire « Vous avez la vie éternelle. » Et je suis tellement heureux que Jésus emploie cette expression « vie éternelle ». Parce que si Jésus disait tout simplement « la vie », on pourrait se poser la question « est-ce que ça s'arrête ou pas ? Est-ce que ça continue ? Est-ce que peut-être on a la vie pendant un certain temps et après on ne l'a plus ? » Mais non, vie éternelle, on ne peut pas la perdre. Elle ne peut pas partir, elle ne peut pas s'arrêter. Et Jésus dit « je donne cette vie éternelle ». Et c'est en venant à lui que nous avons la vie, cette vie éternelle. Et si nous sommes venus à Jésus-Christ pour cette vie éternelle, pour ce salut, plus qu'aucun autre endroit, et plus que n'importe qui d'autre, l'amour doit se voir ici, entre nous. L'amour doit se voir. Alors déjà, ça doit s'entendre, mais aussi, ça doit se voir entre nous. Et si l'amour de Dieu ne se voit pas entre nous, Jean, dans sa première épître, donc plus vers la fin de la Bible, c'est toujours le même auteur que celui qui écrit ici, il va dire, nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu et ne pas aimer son frère. Il dit, ne me dites pas que vous aimez vos frères, que vous aimez Dieu, si vous n'aimez pas vos frères. Et la question à se poser, c'est, sommes-nous coupables, suis-je coupable de refuser l'autorité que Jésus il a dans ma vie de me dire, aimez vos frères et sœurs. Et il ne le dit pas parce que c'est facile. Vous savez, par moments, aimer les gens, c'est une des choses les plus dures au monde. Régler des problèmes financiers, aussi difficiles qu'ils soient, bah, ça, on peut le faire. Régler des problèmes mécaniques, certains sont très habiles à faire ça, et on achète une pièce, on fait voilà, ceci, et puis ça refonctionne, pas de souci. Régler des problèmes informatiques, aussi frustrants qu'ils puissent être, ça peut prendre du temps, mais ça se règle. Régler un problème d'un manque d'amour, c'est une des choses les plus difficiles. Parce que les gens, parfois, ne sont pas aimables. Nous ne sommes pas, parfois, aimables. Nous faisons ce qui est mal. Les autres font le mal envers nous. Et même les enfants de Dieu ne se comportent pas toujours comme ils doivent. Et vous le savez. Parce que vous non plus, vous ne vous comportez pas comme vous devez toujours. Moi non plus. Personne n'est exempt. Mais Jésus ne dit pas « aimez-vous les uns les autres parce que c'est facile ». Il ne le dit pas parce que ça vient naturellement. Non, il le dit parce qu'il a l'autorité de le dire et parce que cet amour que nous manifestons les uns pour les autres montre également notre amour pour Dieu. Et si, moi, je manque d'amour pour mes frères et sœurs en Christ, je dois sérieusement me poser des questions sur mon amour pour Dieu. Et c'est extrêmement grave. Et Jésus, ici, dans ce passage, montre son autorité. Il dit, voici, telles sont les choses. Voici ce que moi je dis. Et ce n'est pas juste une opinion, ce n'est pas quelque chose à laisser ou à prendre. Non, il dit avec autorité. Mais également, il dit avec puissance. Alors, j'étais frappée en lisant ces versets. Regardez avec moi verset 24. Non, c'est pas celui-là, c'est le verset 21, excusez-moi. Verset 21. « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Si ce n'est pas ça la puissance, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Qui d'entre nous peut donner la vie physique? Personne. Qui donne la vie, c'est Dieu. Entre parenthèses, ça veut dire que Dieu est le seul qui a le droit de la reprendre. Dieu, lui, il donne la vie. Il ressuscite même les morts. Qui peut faire ça? Seulement Dieu. Et Jésus dit, eh ben, tout comme le Père le fait, moi également, je le fais. Et puis, verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Et je me suis posé la question, peut-être vous aussi, mais à quoi fait-il référence là? Parce qu'il parle de mort, il parle de revivre, donc ceux qui auront entendu la voix du Fils de Dieu vivront. De quoi il parle? Jésus a ressuscité quelques personnes, notamment Lazare, mais aussi le fils d'une veuve de la ville de Nain. Et ici, il dit, je ressuscite des morts, vont revivre. Et lorsque nous regardons ce que Jésus est en train de dire, on comprend que Jésus n'est pas en train de parler de la mort physique. Ça, il va le faire dans quelques versets. Mais ici, il parle de mort spirituelle. Les morts, c'est ceux qui sont séparés spirituellement de Dieu. Et ça, c'est tous. Selon l'apôtre Paul, ça, c'est chacun de nous avant que nous soyons sauvés. Si toutefois nous le sommes. Et Jésus dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Pourquoi? Parce que Jésus est venu. Où ceux qui sont morts spirituellement, ceux qui sont séparés de Dieu, vont entendre le message de la vie. Parce que Jésus est puissant. Et au verset 26, il le confirme, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Nous n'avons pas la possibilité de transmettre la vie à quelqu'un d'autre. Mais Jésus, il a cette puissance. Et si Jésus a la puissance de rendre la vie spirituelle ainsi que la vie physique, n'est-il pas vrai qu'il a la possibilité, il a la puissance de régler n'importe quel problème dans votre vie, de vous aider face à n'importe quelle difficulté, de pourvoir pour n'importe quel besoin que vous avez et que moi j'ai. Mais n'est-il pas vrai aussi que ce n'est pas toujours comme cela que nous réfléchissons? La voiture tombe en panne. Quelle est la première réflexion qu'on a? C'est vraiment pas le moment. Comme s'il y avait un moment pour cela. Non mais Dieu, ceci m'arrive toujours. Non mais Seigneur, tu vois pas toutes ces autres choses? Ça ne pouvait pas arriver à quelqu'un d'autre, cette fois-ci. C'est toujours moi. Vous n'avez pas ces réflexions, non? Non. Et pourtant, lorsque ce genre de choses arrive, que ce soit la voiture, un appareil, tout ce que vous voulez, pensez à une chose extrêmement difficile, notre réflexion doit être Dieu, par Jésus-Christ, tu es puissant. Et tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, alors ce problème qui me semble comme une montagne, un obstacle insurmontable devant moi, si la mort n'a pas pu te faire face, et si tu as vaincu la mort, Seigneur, ce problème, ce n'est rien pour toi. Et je place ma confiance en toi en sachant que tu régleras la chose. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jésus est puissant. Cette vie, il la donne. Et avec cette vie, il donne tout ce qui va avec. Mais également, Jésus, avec la vie, possède de la part de son Père le jugement. Et ceci doit vraiment nous faire réfléchir, parce que regardez le verset 27. Et il, on parle de Dieu le Père ici, lui a donné, donc Dieu le Père a donné à Dieu le Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de Dieu, Fils de l'homme, pardon. Il est Fils de l'homme. Verset 28, ne vous étonnez pas de cela. Apparemment, Jésus savait que les chefs religieux seraient étonnés que Jésus jugerait ou que Dieu jugerait. Dans l'esprit des Juifs de l'époque, ils étaient peuple choisi de Dieu, ce qui est vrai. Dieu les avait mis à part pour une mission spéciale d'être ses témoins envers toute l'humanité. Et à leurs yeux, peu importe ce qu'ils faisaient, ben Dieu les accepterait parce qu'il avait fait la promesse à Abraham. Il avait fait la promesse à David, à Salomon, tu auras toujours un successeur sur le trône. Dieu, peu importe ce que nous faisons, il va rester fidèle à son alliance. Alors nous pouvons faire tout ce que nous voulons parce que Dieu, lui, de toutes les façons, il pardonnera, il n'y aura pas de souci et tout. Alors c'est une mauvaise réflexion. Dieu avait fait son alliance, Dieu avait donné ses promesses, mais il s'attendait à ce que le peuple soit obéissant. Le peuple n'était pas obéissant, alors Dieu les a jugés. Et ici, Jésus revient sur cette idée de jugement et il dit, Dieu, lui, il juge, Dieu le Père. Et dans l'esprit des Juifs, ce serait le Dieu, le Elohim, le grand Dieu, Dieu de l'Alliance, le Yahvé de l'Ancien Testament. Ben, il a donné le pouvoir de juger au Fils. Et il ne fallait pas s'étonner de cela, puisque verset 28, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Et ceci pourrait nous étonner. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et on lit ce verset et on se dit, mais attendez, le salut, c'est par grâce, n'est-ce pas ? Le salut, c'est par Jésus-Christ et en acceptant Jésus-Christ, par la foi. Je lis ce verset et je pourrais croire que si je fais le bien, je ressuscite pour la vie. Si je fais le mal, ben, j'irai loin de Dieu dans le châtiment éternel. Alors qu'il soit très clair ici, le salut n'est point, pas du tout, aucune possibilité d'être par les œuvres. Nous sommes sauvés par grâce. Toute la Bible le montre. Par le moyen de la foi. Mais ce que Jésus montre ici, c'est que c'est dans cette vie que le choix doit être fait. C'est sur la base de ce que nous faisons dans cette vie que nous serons examinés par la suite. Et qu'à un moment donné, il sera trop tard. Et nous le savons. Mais Jésus voulait mettre ceci devant les yeux des gens auxquels il parlait pour leur montrer « j'ai autorité, j'ai puissance, mais j'ai aussi le jugement. » Et qu'un jour, tous, sans exception, vous, moi, nos amis, notre famille, nos collègues de travail, les gens que nous croisons dans la rue, les gens que nous croisons au magasin, toute personne se tiendra devant Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va leur poser une question. Qu'avez-vous fait de Jésus-Christ? Et Dieu nous posera cette question. À chacun individuellement, Dieu posera cette question. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Personne ne pourrait dire « Ah oui, finalement, Jésus-Christ, je l'accepte. Je l'avais refusé toute ma vie, mais maintenant, je l'accepte. » Ah non, trop tard. c'est dans cette vie. Et pendant que quelqu'un est en vie, il y a cette possibilité d'accepter Christ. Le brigand sur la croix, c'est un des plus grands exemples. Cet homme sur la croix qui se reconnaissait malfaiteur, qui avait fait le mal, qui avait péché, qui apparemment avait refusé Dieu pendant toute sa vie, là, il reconnaît que Jésus peut le sauver, lui demande de le sauver, et il est sauvé. Gloire à Dieu. Mais si cet homme n'avait pas reçu Jésus-Christ, et il était mort, et une fois devant Dieu, Dieu lui aurait dit, « Mais qu'est-ce que tu as fait de mon fils ?» Et cet homme aurait dit, « Ah, mais maintenant, je crois, maintenant, je vais l'accepter. » Dieu aurait dit, « Non, c'est trop tard. Tu avais la possibilité, tu l'as refusé. » Et c'est un message que nous devons annoncer autour de nous. Que Dieu, il va juger chacun. Les gens, ils n'aiment pas entendre ça. Hein? Ah, ne me jugez pas. Vous n'êtes pas à ma place. Non, ne me jugez pas. Mais nous devons leur dire que Dieu les jugera. Et qu'un jour, il sera trop tard. Et c'est aujourd'hui que les gens autour de nous qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur doivent l'accepter. Ça, c'est le message que nous avons. Un message du jugement de Dieu sur ceux qui le rejettent. Mais gloire à Dieu, un message d'espérance et de joie pour ceux qui l'acceptent. Et Jésus explique cela dans ce verset. Verset 29. « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. » Pourquoi ? Parce qu'ils auront accepté Christ comme leur sauveur. Et c'est grâce à Christ qui agit à travers eux qui font le bien. Ce bien dont il est question ici ne vient pas d'eux. Ça vient de Jésus qui agit en eux. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ce sont des personnes qui n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur personnel. Et il ressuscite tout comme ceux qui sont sauvés, mais il ressuscite pour le jugement. Et vous pouvez aller dans Apocalypse chapitre 20, si vous voulez un examen plus approfondi de cela, des explications plus précises. Vous pouvez noter à côté Apocalypse chapitre 20, parce qu'il est tout à fait question de cela. Les morts ressuscitent tous. Et là, ils sont jugés, ils sont examinés. Et les uns qui ont accepté Christ reçoivent la vie éternelle, les autres qui ne l'ont pas accepté, la condamnation éternelle. Et Jésus n'avait pas peur d'annoncer ce message devant les autorités. Ici, il est devant les chefs religieux et il leur dit cela. Il les met là-dedans. Il n'avait pas peur parce que lui, il avait autorité, lui, il avait puissance. Et vous allez dire, mais c'est normal, c'est Jésus. Moi, qui suis-je ? Moi, j'ai peur, je manque de confiance, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas comment m'y prendre et tout. Mais si nous sommes sauvés, Jésus est en nous. Et Jésus nous rend capables d'annoncer ce même message avec courage, avec sagesse, pour que les gens comprennent. Et nous devons leur montrer que Dieu place devant eux un choix. Et qu'ils ont besoin d'accepter aujourd'hui. Et au verset 30, c'est le verset d'ailleurs qui est sur la feuille de la bonne semence aujourd'hui, donc vous allez le revoir si vous lisez ça plus tard. Je ne puis rien faire de moi-même. Ceci semble étonnant venant de la part de Jésus. Il est Dieu. On pourrait dire, mais il fait ce qu'il veut. Dieu, à qui rend-il des comptes ? Personne. Jésus, à qui rend-il des comptes ? On pourrait dire, à personne, parce qu'il est Dieu. Et pourtant, il rend des comptes à son Père. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Qu'est-ce qu'il entend ? Ce qu'il entend, c'est de la part de son Père. Il continue dans ce verset, « Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ici, nous avons soumission et humilité. Et si Jésus était soumis et humble, est-ce que nous croyons être plus grands que Jésus? Est-ce que nous croyons pouvoir nous passer de ces mêmes sentiments et de cette même attitude aujourd'hui? Et lorsqu'on le met dans ces termes-là, lorsqu'on en parle de cette façon, on se rend compte que ce serait tellement ridicule. Et ce serait même condamnable. Ce serait de l'orgueil. Ce serait de l'arrogance. Et pourtant, combien de fois n'est-il pas vrai dans votre vie et dans la mienne qu'au lieu de faire ce que Dieu nous demande directement, nous croyons mieux faire, nous croyons mieux dire ce que Dieu a déjà dit. Et nous faisons autre chose que ce que Dieu nous demande de faire. Et nous disons que ce n'est pas grave, que de toutes les façons, Dieu comprendra. Et il agréera, c'est pas grave, il fera l'impasse. Et il n'en est pas question. Quand Dieu dit de faire quelque chose, il s'attend à ce que nous le fassions. Et Jésus était l'exemple parfait de soumission, d'humilité et d'obéissance. Et parce que nous avons son exemple, et parce que lui, il habite en nous, il est capable de nous rendre capables de toujours être obéissants, de toujours être soumis. Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même. Alors que par la suite, il va dire à ses disciples, tout pouvoir m'est donné. Donc, il pouvait tout. Il faisait des miracles, il guérissait, il pourvoyait. Chapitre 6, il y aura le miracle de la multiplication des pains et des poissons pour 5000. Il avait déjà changé l'eau en vin. Il avait déjà guéri un ensemble de personnes. Mais rien de ce qu'il faisait ne se faisait en dehors de la volonté de Dieu. Et voici ce vers quoi nous devons tendre. Cet après-midi, nous aurons la possibilité de mettre en pratique la volonté de Dieu. Demain matin, nous aurons la possibilité de mettre en pratique la volonté de Dieu. Mardi soir, 19h30, vous le savez, je pense la plupart, sinon tous, réunion de prière, étude biblique. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que ses enfants se rassemblent. Déjà, vous êtes là le dimanche matin. C'est formidable. Gloire à Dieu. Mais Dieu veut que ses enfants se rassemblent. Alors, lorsque il y a des réunions spéciales ou même ordinaires de l'Église, pourquoi ne sommes-nous pas plus nombreux? Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas là? Alors, parfois, il y a des raisons légitimes, de santé, d'obligation ou autre. Mais si jamais nous prenions la décision délibérément de ne pas nous associer à des rencontres normales et régulières de l'Église sur la base de la Bible, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants se rassemblent. Dieu veut que ses enfants lui donnent. Que ses enfants mettent à part pour lui une partie de leurs ressources. Le faisons-nous? Je prie que oui. Et à en croire le budget et les offrandes de l'Église, ben, beaucoup le font. Gloire à Dieu. Amen. Que ça continue. Mais si jamais on ne le fait pas, ben, on est en dehors de l'Église. On est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu veut que ses enfants témoignent, annoncent le salut en Jésus-Christ. Je vous pose la question. Qui est la dernière personne à laquelle vous avez clairement annoncé ouvertement le plan du salut? À quand est-ce que cela remonte? Parce que cela fait partie de la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes remplis du Saint-Esprit en ce moment? Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous l'êtes? C'est-à-dire complètement contrôlé par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, bah, encore une fois, on est en dehors de la volonté de Dieu. Et Jésus était totalement, toujours dans la volonté de Dieu. Et encore une fois, vous allez dire, mais Robert, c'est normal. Il était parfait, il est Dieu. C'est un idéal qu'on ne pourrait jamais atteindre. Et j'aimerais vous soumettre que c'est faux. Par la puissance qui est à la disposition de Jésus, il nous fortifie pour toute chose que nous devons faire dans notre vie. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste qui nous demande des choses qu'il sait très bien sont impossibles. Si Dieu demande une chose, c'est parce qu'il sait que c'est possible. Et avec sa puissance, ça l'est. Jésus est en nous. Et lorsque nous lisons la fin de ce verset 30, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » De toutes les personnes de toute l'histoire, Jésus était de loin celui qui pouvait faire ce qu'il voulait. Il est Dieu. Mais non. Il a dit, je fais la volonté de celui qui m'a placé ici. Et si Jésus le faisait, nous devons le faire également. Et parce qu'il a fait parfaitement, il nous montre l'exemple et il nous montre la puissance qui est à notre disposition pour le faire. Ce n'est pas un combat perdu à l'avance. L'échec vers lequel on va de toutes les façons, non. C'est possible. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Satan est là pour nous tenter, tout comme il a fait avec Adam et Ève. Non, mais Dieu vous cache des choses. Dieu ne veut pas votre bien. Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Il sait qu'en mangeant le fruit défendu, vous deviendrez comme lui. Alors allez-y, ça va vous apporter de la connaissance. Même si Dieu l'a interdit, bah faites-le quand même. Et Adam et Ève ont succombé. Et nous devons reconnaître que nous succombons également à la tentation, au péché, souvent. Mais ça ne doit pas être la vie normale du chrétien. La vie normale du chrétien, c'est une entière soumission à la volonté de Dieu. Parce que Jésus, il a autorité. Il a le droit de nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Il a la puissance, tout pouvoir, toute puissance. La puissance qui a parlé et le monde est venu à l'existence. Rien n'est impossible pour lui. Ma désobéissance, votre arrogance, nos manquements ne sont pas plus grands que la puissance de Dieu. Dieu peut nous aider. Et puis, Jésus nous juge. Jésus nous examine. Ne croyez pas que Jésus soit indifférent face à ce que vous faites dans votre vie. Jésus examine. Et lorsqu'il examine votre vie, lorsqu'il examine ma vie, qu'est-ce qu'il voit? Et ce qui est formidable, c'est que ce même Jésus qui juge, qui dit « Ah, ça c'est pas bien. Ah, ça c'est bien, oui, continue. » C'est celui qui fortifie chaque jour, chaque instant. Et il le fait pour chacun. Ce n'est pas simplement pour les enfants de Dieu, super spirituels, ceux qui ont atteint un certain niveau. C'est pour tout enfant de Dieu. Jésus vous accompagne tous les jours. Aujourd'hui, il sera avec vous demain. Quand vous serez sur la route, il y a des fous sur la route. Et il y en a, croyez-moi, vous le savez. Et que vous êtes frustré, il est avec vous face à votre patron injuste, à vos collègues agaçants, envers les enfants désobéissants, parce que les enfants sont désobéissants, n'est-ce pas? Il est avec les enfants lorsque les parents semblent incompréhensifs. Il est avec vous lorsque vous n'avez pas trop envie de faire ce que Dieu veut, Et avouons-le, soyons honnêtes, nous n'avons pas toujours envie de faire ce que Dieu veut. Mais dans ces moments-là, de faire appel à lui en disant, mais Jésus, toi, tu le fais. Et je demande ton aide pour que tu me donnes le désir même d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, quel sera notre témoignage cette semaine? Est-ce que notre témoignage cette semaine sera que nous vivons exactement comme nous avons vécu la semaine dernière, comme nous avons vécu pendant toute l'année 2018, sans grand changement? La vie de Jésus qui n'a pratiquement aucune influence, aucune incidence sur notre vie? Ou est-ce que cette semaine, notre témoignage sera « Je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé, celui qui m'a placé ici. Et je le fais par la puissance de Jésus. » Je crois que nous savons tous ce que Dieu, lui, il veut. De ces deux réponses, je crois qu'il est assez évident quelle réponse nous devons donner, quel choix nous devons faire. Mais il s'agit de faire ce choix chaque jour, chaque instant. Ne laissez pas ces paroles sur la page de ce livre, ne les laissez pas ici entre les quatre murs de ce bâtiment. Prenez-les avec vous. Pendant toute cette semaine, face aux difficultés qui vont arriver, face aux obstacles, face aux péchés, face aux tentations qui vont venir cette semaine, petits ou grands. Que l'exemple que Jésus nous donne ici de son autorité, de sa puissance, de son jugement et de sa soumission à son Père en toutes choses puisse nous aider pour tout ce qu'il y aura cette semaine, et que notre témoignage soit à la fin de la semaine, gloire à Dieu, j'ai fait la volonté de Dieu, je n'ai pas fait la mienne, je l'ai glorifié parce que j'ai accompli ce que lui, il a voulu pour moi. Alors nous avons besoin de l'aide de Jésus pour cela, totalement impossible par nous-mêmes. Alors nous allons dans la prière lui demander cette aide pour qu'il nous fortifie. Oui Seigneur, rien n'est caché à tes yeux. Tu sais toutes choses, tout est découvert, tout est à la lumière pour toi. Tu vois notre faiblesse, tu vois notre incapacité, que tu nous fortifies, tu es le puissant, le tout-puissant. Tu es rempli de compassion, tu es rempli d'amour pour nous et tu veux nous rendre capables d'être soumis et d'être obéissant en toutes choses. Que par ta puissance, tu interviennes dans notre vie, que ces paroles puissent avoir un impact réel, visible, dans la vie de chacun, qu'à la fin de cette semaine devant nous, nous puissions dire haut et fort, grâce à toi, nous avons accompli ta volonté, nous avons été soumis et c'est toi qui l'as fait. Seigneur, que ce soit évident pour tous ceux qui nous entourent et ainsi que tu puisses recevoir l'honneur et la gloire qui t'est due. C'est en ton nom que nous prions. Amen.